au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Canal Académie qui est partenaire des Figaro hors-série. Et cette émission a pour but de vous présenter le hors-série du Figaro consacré à Louis XIV et intitulé « Louis XIV, l'homme, l'artiste, le roi ». Et pour nous présenter ce numéro exceptionnel, j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio Isabelle Schmitz, qui est en charge de l'iconographie de ces hors-séries. Bonjour Isabelle.
Bonjour Hélène.
Merci d'être venue jusqu'à nous. L'iconographie, évidemment, dans des hors-séries, surtout sur celui-là, sur le Roi Soleil et sur Versailles, c'est essentiel à la qualité et à la beauté du numéro, je suppose. Combien d'illustrations en général ?
Alors, en général, on est autour de 200 illustrations. Et là, c'est le cas. Et c'est vrai que l'iconographie du Roi Soleil est particulièrement riche, puisque c'est le roi qui a été le plus représenté. Et le roi de France qui y a attaché certainement le plus d'importance.
Donc, vous avez souffert de l'embarras du choix ?
Oui, enfin souffert, disons que c'était une des données du problème, mais une chance aussi.
Dans son édito, Michel de Gégère dit que c'est un portrait par réfraction. Alors expliquez-nous ce qu'il veut dire par là.
Alors, réfraction et non pas effraction, comme on pourrait le croire. Non, réfraction, c'est ce qu'on peut percevoir du reflet d'un miroir et de choses en fait, qui renvoient une image parcellaire et dont la somme des parcelles forme une image globale. Pour le Roi Soleil, en fait, c'est très intéressant de voir à travers cette exposition qu'il y a à la fois les portraits officiels où le roi se fait représenter en roi de paix ou en roi de guerre, selon ce qu'il veut, l'idée qu'il veut transmettre, et également les œuvres regroupées sous le terme « le goût du roi », c'est-à-dire les œuvres qu'il a collectionnées et qu'il s'est acheté lui-même, ou bien qu'il a fait produire et pour laquelle il a engagé des artistes et pour lesquels il les a soutenus. Et toutes ces œuvres, dans leur diversité, dans leur profusion, renvoient l'image d'un homme de goût, éclectique,
un esthète et un mécène.
Et quelqu'un de très humain dont on n'a pas forcément l'idée a priori, avec les caricatures un peu rigides de l'État c'est moi, la monarchie absolue, une image qui est...
un peu différente du roi.
Voilà. Un peu différente.
Alors Michel de Gégère justement dit « Tous ces chefs-d'œuvre, parce qu'en vérité ce sont des chefs-d'œuvre, dessinent le visage d'un monarque qui parvint à faire de sa vie une œuvre d'art en même temps qu'il faisait des beaux-arts un instrument de son gouvernement. » C'est l'art de la formule pour Michel de Gégère, car c'est fort bien dit.
C'est vrai, mais je crois que la formule est très révélatrice de la façon dont Louis XIV a vécu ce rapport aux arts, qui était à la fois un goût personnel, un exercice, puisque lui-même était excellent guitariste, danseur étoile, on en parlera, et puis extrêmement intéressé par l'architecture, les jardins, et au point de s'y impliquer vraiment personnellement.
Alors, vous avez tout à l'heure dit que c'était autour d'une exposition. Alors, comme toujours, ce hors-série s'articule en quatre parties. Et justement, la première de ces parties s'intitule « Les images d'une exposition ». Ce sont 15 pages qui reproduisent les chefs-d'œuvre, justement, qui sont présentés dans cette exposition qui a lieu à Versailles, je suppose.
Oui, cette exposition a lieu à Versailles du 20 octobre au 7 février. Et elle regroupe à peu près 300 œuvres qui viennent d'un peu partout. Il y a des œuvres qui viennent des collections de la reine d'Angleterre, par exemple, de pas mal de musées étrangers. Il y a des collectionneurs privés aux États-Unis qui ont accepté.
Donc des œuvres qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Ah non, des œuvres qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir et qui sont à la fois les portraits de Louis XIV officiels et privés. On découvre notamment un buste de Louis XIV enfant qui est absolument charmant et que moi personnellement, je n'avais jamais vu et jamais vu reproduit. Il y a donc tous ces tableaux où il est représenté en roi, alors soit en roi de guerre, donc pendant ses batailles, ou en roi de paix, au contraire, le roi qui apporte la concorde entre les peuples, des portraits plus intimes, plus personnels. Il y a ces collections de médailles, par exemple, puisque Louis XIV était un passionné de médailles. Et il y a notamment un médaillé très étonnant où on voit le roi représenté à tous les âges de la vie, donc depuis l'âge de 5 ans jusqu'à sa mort quasiment. Et ce qui est intéressant de voir, l'article explique, c'est que Louis XIV est un des rois qui a énormément soigné son image, mais sans jamais vouloir la contrefaire. C'est-à-dire qu'il a toujours accepté de vieillir, de s'enlaidir d'une certaine manière, d'être malade,
tel
etc.
Tel qu'il est. Oui, ce qui est aussi surprenant dans son caractère, justement. On aurait pu penser l'inverse.
Oui, exactement.
Alors, donc, après cette première partie du hors-série du Figaro, 15 pages qui reproduisent ses chefs-d'œuvre.
Alors, j'ajoute juste qu'après ses portraits, il y a toutes les œuvres qu'il a collectionnées.
Voilà, et, comme collectionneur.
Et qu'il a encouragées aussi dans la production artistique. Il avait notamment une des collections de gemmes les plus importantes d'Occident depuis le Moyen-Âge. C'était une passion. On voit des plateaux de pierre dure avec de la marqueterie en pierre qui sont absolument magnifiques. Il collectionnait également les natures mortes et les meubles. Il y a notamment une commode de boules qui est très étonnante. Il avait des aiguières en cristal. Enfin, voilà, des choses très éclectiques. Et puis, il y a bien sûr de grands tableaux, notamment des tableaux de Lebrun et de Mignard, qui ont été successivement le premier peintre du roi et qui sont exposés et que l'on découvre ou redécouvre avec bonheur.
Après ces 15 pages reproduisant des chefs-d'œuvre de l'exposition, il y a les 15 journées de la vie d'un roi. Alors ça, c'est traditionnel dans les hors-séries du Figaro. Il y a toujours 15 journées du sujet dont on parle. Là, ces 15 journées de la vie d'un roi sont rédigées par l'historien Jean-Christian Petit-Fils, l'un des meilleurs biographes du roi, que Canal Académie interviewe par ailleurs. Et alors là, ce sont les grandes dates du règne de Louis XIV. Alors, les réduire à 15, ça a dû être difficile aussi.
Oui, c'est vrai que on est malheureusement tenu à une certaine longueur, mais c'est sûr que en fait, l'idée de ces 15 journées est de rappeler 15 dates clés, non pas les 15, parce qu'il y en a bien plus évidemment, mais 15 dates aussi qui reflètent les principales dimensions de la vie du roi. Alors évidemment, ça commence à sa naissance. Disons que la première journée, c'est plus précisément la mort de Louis XIII lorsque Louis XIV a 4 ans. Et Jean-Christian Petit-Fils raconte cette scène émouvante où le roi mourant appelle son fils et lui dit « Comment vous appelez-vous mon fils ?» Et le petit dauphin répond « Louis XIV, mon père. » Et Louis XIII lui dit « Non, pas encore, bientôt peut-être. » Et donc ce jour-là, le roi meurt, laissant Anne d'Autriche régente, aidée de Mazarin. Et on suit l'éducation du jeune Louis XIV, qui connaît le traumatisme de la Fronde, qui tout jeune est obligé de quitter le Louvre dans la nuit et de se réfugier au château de Saint-Germain pour pouvoir lutter contre la Fronde des nobles. Et puis l'éducation que lui donne Mazarin, et avec sa manière de plus en plus personnelle d'incarner le pouvoir et de s'imposer devant le Parlement. Notamment, on suit le cours de sa vie,
la
vie normale, son mariage,
guerres,
la politique, la révocation de l'édit de Nantes, les plaisirs de l'île enchantée à Versailles, qui n'est encore qu'une résidence secondaire, mais qui va prendre de plus en plus d'importance dans le goût et la vie du roi Soleil.
Pour terminer par, évidemment, le coucher du soleil, c'est-à-dire sa mort en 1715.
Sa mort après la mort de beaucoup de ses proches, de ses petits-enfants. Et c'est là aussi un roi extrêmement humain que l'on découvre en voyant la peine profonde qu'il a à voir mourir ses enfants, petits-enfants, et ce sentiment de solitude qu'il habite de plus en plus à la fin de sa vie.
Alors, comme toujours, c'est très clairement présenté, c'est-à-dire on a l'illustration à droite, le texte à gauche, c'est précis, c'est concis. Au fond, on capte l'essentiel dans ces 15 journées très, très rapidement.
Oui, on a essayé également...
C'est pas doux, mais on capte l'essentiel.
Tant mieux si le but est atteint. On a également essayé de varier l'iconographie et d'alterner des portraits officiels avec des pièces de l'exposition et puis des portraits des gens qui ont particulièrement compté dans l'entourage de Louis XIV, que cela aille de sa femme à ses maîtresses, à Nicolas Fouquet. Des gens qui ont été importants dans son histoire et dont on découvre les visages au fil des journées.
Alors, pour nous mettre en bouche sur la troisième partie qui va parler de l'art et particulièrement de la musique, on va écouter quelques notes de musique, si vous le voulez bien, en marquant une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Après ces quelques notes de musique, nous voici de nouveau en compagnie d'Isabelle Schmitt pour présenter ce hors-série du Figaro consacré à Louis XIV, l'homme, l'artiste, le roi. On en était à la troisième partie. On a vu que ce hors-série a présenté les images de l'exposition qui accompagne en ce moment ces manifestations à Versailles. On a évoqué les 15 journées de la vie d'un roi. Et maintenant, on aborde une troisième partie véritablement importante aussi. C'est le portrait de l'homme, l'artiste et le roi, et qui est rédigé par Philippe Beaussan de l'Académie française, non seulement grand connaisseur de la musique baroque, mais aussi grand connaisseur du roi Louis XIV. Puis il a écrit plusieurs livres sur Louis XIV. Alors, il y explique les goût du roi en matière de théâtre, de musique, de peinture et sa familiarité avec les artistes, les jardiniers, les architectes. Et Beaussan montre juste dans les détails jusqu'où va la familiarité du roi avec ces gens d'art.
Oui, Philippe Beaussan, je crois, nous introduit de manière très vivante dans la vie quotidienne du roi Soleil, en nous disant notamment que son lien aux artistes est fort au point que l'étiquette semble ne pas exister pour eux. Il donne l'exemple de Molière petit déjeunant avec le roi, de Racine ayant accès à la chambre du roi sans avoir besoin de demander la permission et sans que l'huissier ne se donne la peine d'aller demander au roi s'il en est d'accord. Il cite également Le Nôtre qui, à la fin de ses jours, est promené en chaise roulante à côté du vieux roi Louis XIV dans les jardins et s'exclamant un peu ému « Ah, mon pauvre père, si tu voyais, moi, le fils d'un pauvre jardinier se promener à côté du plus grand roi du monde. » Donc voilà, toutes sortes d'anecdotes qui, dit Philippe Beaussan, tiennent de la réalité et non pas de la légende. Toutes sortes d'anecdotes qui montrent quelle considération le roi Soleil avait pour ses artistes.
En effet, Philippe Beaussan a écrit « La familiarité de Louis XIV avec les hommes de l'art va plus loin qu'on ne le pense ». Et il le démontre dans ce Figaro hors-série, et c'est justement l'un des intérêts. Et il dit aussi « Les beaux-arts furent pour lui un pont jeté entre son plaisir et sa couronne, un monument tout entier dédié à sa gloire ». Mais ce numéro ne montre pas seulement le roi qui utilise les beaux-arts pour sa puissance, pour sa renommée, mais aussi le goût personnel qu'il en avait. D'abord, comme vous l'aviez dit, il aimait beaucoup la musique et il dansait. Oui. Mais bien, pas normalement, j'allais dire.
Il dansait très bien. Il a commencé l'apprentissage de la danse à 9 ans. Me semble, et au point de devenir danseur étoile et de s'arrêter un peu avant la trentaine. Quand il a vu qu'il n'arrivait plus à son apogée en matière de danse, il s'est arrêté. Mais la danse, oui, ça peut nous étonner aujourd'hui parce qu'on a perdu certainement toute la lecture politique, mais la danse était un art et également un art de gouverner. Et Laurent Dandrieux, qui écrit cet article sur la danse, montre comment Louis XIV a imposé, notamment à Lully, un style assez sérieux, finalement, de danse et d'opéra-ballet, qui représente, en fait, une image de son pouvoir. Et le ballet était censé représenter l'ordre du monde tel qu'il doit être, c'est-à-dire bien ordonné, autour du roi. Et c'est assez amusant d'imaginer le roi Soleil dansant avec les nobles autour de lui, mais qui font toujours office de second rôle, voire de figurant.
Alors, dans sa chapelle, paraît-il, chaque matin, il écoutait une musique différente.
Il écoutait
aussi
une musique différente, absolument. Et quand sa nouvelle chapelle a été construite, il a tenu à faire tester l'acoustique avant même l'inauguration de la chapelle, en faisant venir une chorale qui interprétait un motet, et pour vérifier que la qualité de l'acoustique soit bonne.
Philippe Beaussan, finalement, nous prouve dans ce texte que le roi est un personnage beaucoup plus secret, beaucoup plus complexe qu'on le juge habituellement. Et il dit même, et en plus, il est insupportablement interventionniste dans les plus petits détails.
Oui, alors il est complexe. Oui, c'est vrai que Philippe Beaussan raconte notamment sur l'histoire de Versailles comment Louis XIV ne dira jamais directement, du moins avant une date assez tardive, puisque je crois que c'est 1679, il ne dit jamais directement qu'il veut faire de Versailles sa résidence principale. En revanche, il y va très souvent. Il fait faire des travaux au Louvre, mais certainement pas autant que Colbert ne le voudrait, parce que Colbert était assez hostile à l'idée d'un Versailles gouffre d'énergie, d'argent, et lui dit que ce serait une grande pitié que le plus grand roi ne soit associé à un vil monument. Or, Louis XIV ne dit ni oui ni non, mais fait tout de même réaliser des travaux. Et Philippe Bosson raconte notamment comment, lors des travaux d'aménagement de Versailles, on lui fait valoir que l'ancien château de Louis XIII, le petit château, est complètement anachronique, qu'il faut se débarrasser de ce monument passé de mode et construire quelque chose qui soit du goût de l'ensemble. Et Louis XIV dit « Bon, très bien, présentez-moi des projets ». Et puis en fait, tous les projets sont refusés et en réalité, on ne touchera pas au château de son père. Et donc, c'est amusant de voir qu'en fait...
Il est très diplomate, finalement.
Il est diplomate, mais il sait...
Il sait ce qu'il veut et il impose, évidemment.
Et dans son côté interventionniste se retrouve également dans la construction du Trianon, après le Trianon de Porcelaine.
Et puis dans les jardins.
Et puis
même,
dans les jardins.
Il attendait les bulbes, il les triait, enfin,
ah,
il
oui,
avait
oui,
des
et
idées
puis,
très précises.
Il demande à être informé dès que tel parterre ou tel bosquet est réalisé pour aller le voir tout de suite. Et on sent que c'est quelque chose qui le passionne. Et en même temps, il y a de sa part une certaine retenue quand il ne connaît pas l'art en question. Philippe Bosson raconte notamment une anecdote du roi interpellant quelqu'un, un noble qui était là, et lui demandant « Que pensez-vous de ce tableau ?» Il paraît que ce peintre a du talent, je ne m'y connais pas assez pour l'apprécier à sa juste valeur. Ce qui est étonnant quand on a une image du roi tout-puissant qu'on pourrait penser un peu péremptoire et supérieur. Or là, il dit très simplement qu'il ne se sent pas qualifié pour juger de cet art, tout en l'encourageant et tout en étant un vrai mécène de la peinture.
Donc on découvre un personnage plus complexe et un peu différent de l'image peut-être un peu scolaire qu'on en avait. Et dans la dernière partie de ce hors-série, comme d'habitude, elle s'intitule « Complément d'enquête » et elle donne des conseils pratiques, des lectures, des indications sur les expositions, sur les films. Ça s'intitule d'ailleurs, amusant, il ne faut pas manquer les bons mots, écran solaire, évidemment, sur tout ce qui se passe à la manufacture des Gobelins. Et finalement, à la fin de la lecture de ce hors-série, on s'aperçoit que les Français, on aime toujours Louis XIV, on est toujours fascinés, on a toujours une passion pour lui. Il incarne évidemment dans l'imaginaire national l'apogée de notre histoire. Et donc, je crois que c'est un numéro mémorable que vous avez préparé, Isabelle Schmitt. Je voudrais signaler pour terminer, si vous me le permettez, au moins les deux des livres de Philippe Bosson, car il en a écrit plusieurs sur Louis XIV. Il y a Louis XIV, artiste, et Le Roi Soleil se lève aussi. Et puis que vous trouverez dans les émissions archivées de Canal Academy une vingtaine d'émissions consacrées à Louis XIV et à Versailles. Il suffit de taper ces deux mots-clés. Versailles, qui avait fait d'ailleurs l'objet d'un autre hors-série du Figaro que nous avons également présenté ici à Canal Academy.
C'était un hors-série sur la Galerie des Glaces. Puis il y avait eu deux numéros, oui, sur le château et les jardins.
Merci Isabelle Schmitt de nous avoir présenté ce hors-série du Figaro consacré au roi Louis XIV. Et je ne doute pas qu'il va avoir un très vif succès, car c'est un numéro non seulement à garder, mais à offrir au moins à ceux qu'on aime.
Merci chère Hélène.
À bientôt.
Un plaisir.